Bonsoir et bienvenue à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, à quelques jours de la rentrée universitaire, on s'intéresse à la formation du métier d'ingénieur dans la tech. L'urgence écologique, les problématiques éthiques suscitent de plus en plus de doutes chez ces futurs ingénieurs qui se retrouvent face à un conflit interne. Comment continuer à croire aux vertus du progrès, à l'innovation à tout crin, à la beauté de la performance lorsque la planète se délite? Comment entreprendre avec conviction un métier, certes confortable financièrement, mais qui provoque une dissonance cognitive complexe à négocier? Du côté des formations, les écoles ou universités adaptent-elles suffisamment leur enseignement à ces nouveaux enjeux? Comment proposer des alternatives concrètes au système productiviste dominant? Et ces jeunes qui doutent, que nous avons pu entendre lors d'un discours marquant à AgroParisTech en mai 2022, sont-ils représentatifs d'un métier par définition hétérogène? En un mot, comment rendre le métier d'ingénieur désirable dans un monde devenu insoutenable? Beaucoup de questions et trois invités en studio pour y répondre. Olivier Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien ingénieur en robotique, auteur du livre « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». C'est paru aux éditions L'Échappée en mai dernier. Vous enseignez actuellement la philosophie des techniques à l'Université de Toulouse. Vous pourrez bien entendu revenir sur votre formation et carrière d'ingénieur, nous expliquer pourquoi vous avez décidé de tout quitter pour prendre la tangente. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette dissonance cognitive et vous nous expliquerez comment vous comptez encourager les jeunes à franchir le pas. Les jeunes qui aspirent à devenir ingénieurs, vous les côtoyez au quotidien. Frédéric Fontaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'enseignement à l'École des Mines de Paris, PSL. Vous pourrez revenir sur l'évolution des formations avec l'intégration d'enseignements de sciences sociales sur les organisations et le rapport à la science, une manière d'être en adéquation avec un monde en perpétuel changement. Par ailleurs, vous nous direz pourquoi vous pensez que les élèves doivent être formés pour changer les choses de l'intérieur. Les jeunes toujours et une étudiante qui les représente, Lou Méchin, bonsoir. Vous êtes étudiante à Polytechnique et coordinatrice du collectif Pour un réveil écologique. Vous pourrez nous rendre compte de la frustration d'étudiants qui déplorent le manque de cours sur les sujets environnementaux et le décalage entre l'ampleur du défi et les actions concrètes pour y répondre. Au programme également, notre nouveau rendez-vous avec Juliette Deveau qui nous présentera ses nouvelles d'un monde meilleur sur les initiatives positives de la tech et Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama, s'intéressera à un autre métier, celui d'artiste, et nous dira comment les ingénieurs de l'IA, l'intelligence artificielle, le bouleverse. Notre émission s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture.
Quel diagnostic doit-on faire?
Il s'agit de transformer notre vieille France en un pays neuf et de lui faire épouser son temps.
On est saturé par l'innovation, mais c'est fascinant, c'est très récent. L'innovation, c'est substituer un peu au mot progrès.
La phrase « on n'arrête pas le progrès » était une phrase qui correspondait à un jugement moral. Il ne serait pas bien de vouloir arrêter le progrès.
Bonjour. Aujourd'hui, c'est une très belle journée parce que c'est notre remise de diplôme.
Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
On est dans un moment où on semble paralysé. C'est-à-dire on ne voit pas comment agir face à l'ampleur des défis.
Effondrement de la biodiversité, déstabilisation des écosystèmes et par ricochet de la société, famine, migration forcée, guerre jusqu'à la mort de millions de personnes. Avec tout ça, dans quel futur suis-je censé me projeter ?
Les étudiants de Polytechnique en 2022, un mois après ceux d'AgroParisTech, on a pu aussi entendre dans ce premier montage introductif réalisé par Pierre Legras. Je suis donc ce soir entouré d'ingénieurs, certaines en devenir, d'autres établis, un autre qui en est sorti. Point de départ de cette émission, votre livre, Olivier Lefebvre, vous avez été un ingénieur en robotique. À quel moment vous avez ressenti le déclic, cette nécessité de quitter le métier?
Cette question, elle m'a souvent été posée. Il se trouve que je pense que je l'ai ressenti un peu tout au long de ma carrière, très tôt, et même dans les études. Je me suis quand même posé pas mal de questions parce que, comme beaucoup d'ingénieurs, je suis devenu ingénieur sans vraiment avoir le sentiment de l'avoir choisi. C'est plus un parcours par défaut, en cherchant la voie la plus sélective et en se disant qu'elle ouvrira le plus de portes. Et donc, à un moment, on se réveille dans une école d'ingénieurs et à devenir ingénieur sans vraiment être certain que c'est ce qu'on a envie de faire. Et cette question de ça serait quoi la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Comme je disais, elle m'a souvent été posée à partir du moment où voilà, j'ai décidé moi de quitter l'ingénierie et de faire autre chose, de reprendre des études en sciences humaines et sociales. Et il se trouve que il m'a semblé que, et c'est ça que j'ai poursuivi un peu comme projet dans le livre, qu'il était plus intéressant de retourner la question, parce que dans le parcours que j'ai pu avoir, la quantité d'ingénieurs que j'ai pu rencontrer dans leur métier, donc dans les domaines de la robotique, de l'intelligence artificielle. J'ai travaillé la dernière entreprise pour laquelle je travaillais, c'était dans le domaine du véhicule autonome. Moi, je voyais beaucoup d'ingénieurs qui doutaient, justement, qui avaient une forte dissonance cognitive. On pourra peut-être revenir sur le terme. Et donc, la question qui s'est imposée à moi, c'est comment se fait-il que ces personnes-là, avec tous les doutes qu'elles peuvent m'exprimer, avec la clairvoyance, la lucidité dont elles font preuve sur le fait que leur métier, il va pas vraiment dans le bon sens par rapport aux enjeux contemporains, et ils semblent très préoccupés de ces enjeux, notamment écologiques, comment se fait-il qu'ils désertent pas? Donc, c'est plutôt cette question-là, moi, qui m'intéresse, sur les gouttes d'eau.
Je comprends, effectivement, le goutte d'eau. Déjà, ça veut dire que on n'est pas sur un seul parcours. Puis Goudo, ça voulait sous-entendre qu'il y avait un avant et un après. Or là, vous nous dites que c'est finalement un doute qui s'installe presque dès le début, qui vous suit tout du long, et puis qui à un moment donné va juste être un peu trop fort. Il va vous encourager à faire un mouvement. Mais on comprend effectivement qu'il n'y a pas un moment clé, qu'il n'y a pas même ce romantisme de la goutte d'eau, c'est-à-dire que je me suis rendu compte un matin, j'ai vu le soleil, je suis parti. Donc on comprend effectivement que ce doute vous poursuit. Vous parliez de votre livre qui n'est d'ailleurs pas une enquête sociologique. Hein, vous le dites. Précisément dans votre méthodologie. D'ailleurs, il n'y a pas eu de méthodologie sociologique qui ont été à la base de la réalisation de ce livre.
Non, peut-être a posteriori, je pourrais considérer qu'il s'agit d'un travail d'anthropologie. Comme si j'avais fait une anthropologie du monde des ingénieurs. J'ai fait leurs études, je les ai eus en tant qu'amis, en tant que collègues, j'ai pratiqué leur
métier. Toujours aujourd'hui, non?
Et c'est encore le cas, effectivement. Voilà, je les ai en tant qu'étudiants et en tant que collègues aussi, et en tant qu'amis. Et donc, c'est le fait d'avoir un peu pénétré un milieu et d'essayer de comprendre quels étaient un peu les enjeux et les ressorts, notamment psychiques, hein, dans ce milieu-là, et quels étaient les histoires un peu que les personnes se racontaient pour faire tenir ensemble le fait que c'est la catastrophe écologique, ça nous face à cette urgence, on aurait envie de se mobiliser et en même temps, c'est pas ce que l'on fait au quotidien. Donc là, il y a un décalage, une incohérence où chacun trouve des petites histoires à se raconter.
Et c'est en cela que vous appelez une dissonance cognitive. Ça va plus loin que ce conflit, mais en tout cas, ça l'intègre. Lou Méchin, vous retrouvez justement dans les propos d'Olivier, vous ou vos amis, vos collègues étudiants, ceux qui participent avec vous au réveil, au collectif que vous avez, dont vous faites partie?
Oui, tout à fait. Je fais partie aussi de ces ingénieurs qui n'ont pas vraiment choisi leur métier, dans le sens où j'ai toujours été bonne à l'école, j'ai suivi des études scientifiques parce que c'était l'appétence que j'avais à ce moment-là, et je suis toujours allée dans le cursus le meilleur, entre guillemets, si tant est que les caractéristiques de meilleur cursus soient bien définies, mais j'ai toujours suivi le cursus qui me paraissait le meilleur à ce moment-là, et c'est en fin d'études que j'arrive et où je me dis comment est-ce que je vais pouvoir appliquer ma force de travail, où est-ce que je vais l'appliquer et dans quels enjeux et qu'est-ce qui est important finalement aujourd'hui dans la société actuelle.
Donc c'est ce qu'on a appelé aussi beaucoup cette fameuse quête de sens, c'est-à-dire que là, si je vous comprends bien, ingénieur, voilà, on le suit un peu par automatisme, on se dit que c'est là où il faut aller pour réussir, et puis si on se pose la question de ce vers quoi on va, c'est là où il peut y avoir un problème. Comment vous arrivez à le résoudre, ce problème, vous, Lou Méchin?
Notamment en m'engageant dans le collectif Pour un réveil écologique, dans lequel on développe ces thématiques, on fait du plaidoyer auprès des institutions, auprès des employeurs, et aussi auprès des étudiants et des formations d'enseignement supérieur pour essayer d'intégrer au mieux les enjeux socio-écologiques dans les formations notamment, mais également dans les entreprises.
Alors Frédéric Fontaine, je le rappelle, vous êtes directeur de l'enseignement à l'école des mines. Quelle réaction quand vous entendez ces deux personnes, hein, Olivier et Lou, qui disent j'ai fait ingénieur un peu par automatique, je me suis pas posé trop de questions et puis j'ai suivi les cours qu'on m'a donné. J'imagine qu'en tant que directeur d'un enseignement, on intègre peut-être ces problématiques-là, on essaye même de trouver une solution, pourquoi pas.
Alors oui, on essaie de les intégrer. J'ai tendance à dire que ça s'inscrit très généralement dans la destinée professionnelle humaine. et finalement du doute qu'on peut avoir sur le parcours que l'on va faire. Moi, je me souviens, jeune lycéen, avoir eu des amis, ils savaient, certains voulaient être architectes, c'est absolument ça, l'autre comédien, certains le sont devenus, d'autres pas, et puis d'autres ont pris d'autres parcours, et d'autres ne savaient pas du tout. Donc, je crois que l'adéquation entre les métiers qu'on va faire et puis le parcours humain que l'on a, d'où on vient, comment, dans quel environnement on a évolué, c'est des questions que toutes et tous, on se partage, et je pense que c'est pas uniquement réservé aux ingénieurs, si tant est qu'il faille réserver quelque chose aux ingénieurs de ce point de vue-là. Après, bah, comme vous l'avez très bien dit, tout ça est une question de choix. Mmh. Et pas plus tard que lundi matin, j'accueillais les nouveaux premières années de l'école d'ingénieur, du cycle ingénieur civil, et je leur disais, bah, finalement, qu'est-ce qu'on doit vous apporter, nous? Et la première chose que je leur ai dit, c'est finalement, on doit vous aider à éclairer des choix. Que vous ayez des choix éclairants pour vous et éclairants pour les autres. Mmh. Et ça, c'est la démarche pédagogique que l'on va donner, c'est de dire, bah, vous allez être acteur de votre formation, mais à un moment, quoi qu'il arrive, vous allez faire des choix dans votre vie. Et ces choix-là, il faut que vous ayez en tête le moyen de les objectiver, rationnellement, subjectivement, objectivement, comme vous le voulez. Et nous, on va vous aider à le faire. Et je pense que là, il y a une question finalement, d'attitude entre des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire que l'on doit avoir. Je ne sais pas s'il faut donner une définition et un périmètre juste à l'ingénieur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est protéiforme, finalement.
Alors, c'est protéiforme, certes, mais j'aimerais que peut-être Olivier Lefebvre rebondisse à cette idée qu'il n'y a pas de spécificité de l'ingénieur dans cette dissonance cognitive. Parce que vous avez raison, la quête de sens, on la retrouve dans tout métier. Néanmoins, dans votre livre, on sent, Olivier Lefebvre, qu'il y a une particularité de l'ingénieur par rapport à cette dissonance.
Oui, et c'est difficile hein, d'essayer de caractériser quelles seraient les particularités de l'ingénieur, soit par rapport à la dissonance cognitive, soit d'essayer de caractériser un peu sa tournure d'esprit. Est-ce qu'il y aurait une pensée ingénieur? Ça peut sembler un petit peu cavalier, et pour autant, on arrive quand même à trouver des points communs, malgré ces immenses différences hein, au sein de la profession d'ingénieur. Ça recouvre des métiers extrêmement différents, ça recouvre des catégories sociales extrêmement différentes aussi, et il y a une nette coupure aussi entre les ingénieurs dirigeants et les ingénieurs exécutants, par exemple. Donc on pourrait se dire c'est un espèce d'hologramme social, ça ne recouvre aucune réalité concrète et tangible. Pour autant, il y a quelques éléments communs. D'un point de vue sociologique, c'est quand même une catégorie de la population relativement aisée et qui jouit d'un certain prestige social, première chose. Et puis, il y a la question de la tournure d'esprit. Et là, moi, je pense que la quête de sens aussi des ingénieurs et pourquoi leur dissonance, elle est un peu plus aiguë que peut-être dans d'autres métiers, c'est qu'il y a une conscience chez ces ingénieurs qui s'intéressent particulièrement ou sont pris par les questions écologiques et par le devenir du monde et sont un peu inquiets par rapport à ça. Il y a une conscience que leur métier n'est pas du tout neutre par rapport à ça. Et ça, on peut le comprendre très facilement.
C'est-à-dire que le métier a un impact, leur métier, leur futur métier peut avoir un impact par rapport à ça.
Un impact très très fort. Avec cette idée que l'ingénieur, et historiquement c'est vraiment son rôle, l'ingénierie c'est la science de la pratique, donc l'ingénieur au début de la révolution industrielle, création des plus grandes écoles d'ingénieurs, des mines, fin du 18e, l'école centrale, milieu début 19e, l'ingénieur se met au service de la révolution industrielle, et il n'a cessé d'être au service comme ça du développement technologique, lui-même au service de la dynamique du capitalisme. Et donc cette prise de conscience des ingénieurs de leur rôle dans ces dynamiques-là, elle est assez rapide. Hein, il y a l'idée que la technique, quelque part, elle est politique, dans la mesure où elle façonne nos modes de vie, elle façonne les structurations, l'organisation sociale.
Le système économique.
Et l'ingénieur, comme il fabrique la technique, voilà, il fait de la politique. De suite, de fait. Dès qu'il arrive à son bureau, il fait de la politique. Donc, ça nourrit une notion de quête de sens et de dissonance cognitive un peu singulière de ce point de vue.
Et vous dites d'ailleurs que la pensée ingénieure fait taire le sensible, l'organique. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors donc cette pensée ingénieure, ce qui caractériserait les ingénieurs, ceux qui doutent et ceux qui ne douteraient pas, c'est effectivement quelque chose qui se forge notamment autour des études, durant les études, c'est, moi je sais que ça serait caractérisé par plein de choses, pour le simplifier, le faire un petit peu à la hache là, hein, c'est de dire que il y a tout d'abord un mode de pensée, une pensée calculatoire, une pensée procédurale. Ça va être encore plus vrai quand on va faire de l'informatique, de la programmation informatique. On a tendance à développer un rapport au monde en se disant, bah, en fait, tout peut être modélisé comme un algorithme et résolu.
Une rationalité, effectivement, et puis une résolution permanente.
Voilà, une pensée, à la fin, on finit par penser en if, then, else, hein, ouais. les bases d'un algorithme de type procédural. Et l'autre chose, c'est le rapport au monde en tant que une vision mécaniste du monde, quelque chose une vision un petit peu réductionniste, donc un peu liée à la naissance des sciences modernes au tournant 16e, 17e siècle, où on va considérer la nature comme quelque chose de relativement mécanique, hein, cette idée de le monde comme une grande horloge, là, cette vision cartésienne du monde. Et ça produit un rapport au monde relativement scientiste, où on va se dire, bah, finalement, les sciences de la nature sont le moyen d'accès au réel et au monde le privilégié. Elles sont au-dessus du reste des savoirs, et on pourrait tout modéliser de cette manière-là.
D'où cette mise à distance du sensible.
Exactement.
Alors que vous faites, alors effectivement, on n'est pas dans la caricature, c'est très compliqué de faire un portrait type de ce métier qui est si hétéroclite. Néanmoins, Lou Méchin, dans ce qui vient d'être dit, est-ce que vous vous y retrouvez? Parce qu'on pourrait se dire aussi, à l'inverse, si j'entends le portrait qui vient d'être fait par Olivier, que l'ingénieur est rationnel, donc il sait aussi analyser des données tangibles. Or, lorsqu'on lit les rapports scientifiques, notamment du GIEC, et j'imagine que vous les avez parcourus, de manière aussi rationnelle, on se dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, évidemment, et je me retrouve pas mal dans ce que disait Olivier, dans le sens où l'ingénieur, pendant sa formation, on a été formé à résoudre des problèmes, certes complexes, mais toujours bien posés, dans le sens où les hypothèses étaient claires. Et les hypothèses en question, elles sont très politiques et ça dépend de ce vers quoi on veut arriver et ce de quoi on part. Et on parlait tout à l'heure du choix que faisaient les ingénieurs pendant leur formation. Je pense que effectivement, ce choix, il reste très dirigé par le contenu des formations qui aujourd'hui n'intègrent pas suffisamment les enjeux environnementaux et qui permettent effectivement aux ingénieurs de faire un choix parmi un certain nombre de cours, parmi un catalogue, une maquette pédagogique. Mais ces cours n'intègrent pas encore les enjeux qui nous permettent d'avoir un métier qui derrière est écologiquement utile, si je puis dire. Et donc les écoles et les écoles d'ingénieurs notamment se posent pas suffisamment la question de vers quel métier est-ce qu'elles orientent les élèves.
D'où votre volonté justement de militer pour intégrer davantage de cours qui sont liés aux enjeux écologiques. On pourra en revenir sur vos différentes initiatives, la manière aussi de valoriser les écoles qui le font. Une idée par exemple qu'elle pourrait remonter dans des classements où il peut y avoir des points de désirabilité entre guillemets d'écoles responsables. Frédéric Fontaine, vous nous avez dit en introduction que vous permettez à vos étudiants de faire un choix. On comprend là, en écoutant, en reprenant les propos d'Olivier, que finalement, les formations, la manière dont on enseigne est politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, d'une politisation de la manière dont on forme les étudiants? Et puis, on parle d'un choix, mais un choix qui est peut-être pas extensible. Peut-être que vous donnez un choix par rapport à un catalogue qui est peut-être réduit. C'est ce que nous dit un petit peu Lou Méchin, c'est que le choix entre quoi et quoi.
Alors, si la question est politique par rapport à la structuration, finalement, de la société et des organisations humaines, notre rapport finalement à notre environnement, à la nature, etc., et entre ce qui est du domaine des croyances et puis finalement de ce que nous délivre la science au fur et à mesure du temps et de notre compréhension, oui, oui, et j'aurais tendance à dire, il faut l'avoir avec beaucoup d'humilité. Parce que quand on parle de complexité, l'esprit humain, notre esprit reptilien, finalement, lui, il cherche à mettre ça dans des petites boîtes sympathiques et dire, bon, ben voilà, je fais des taxonomies, je me débrouille bien avec ça. Or, finalement, l'ensemble, le système Terre, le système biologique, le système nature, vous l'appelez comme vous voulez, tous ces ensembles-là, et si on passe à l'échelle de l'espace, il en est bien plus. C'est quand même marqué par beaucoup finalement d'incertitudes, et il faut quand même forger des esprits par rapport à cela, parce que aussi il faut aussi limiter le fait de penser que par exemple comme on a pu le faire, eh bien s'il y a un éclair dans le ciel, c'est parce que quelqu'un n'est pas content dans le ciel, tomber dans Astérix parce que le ciel va nous tomber sur la tête. Donc il faut aussi avoir cette compréhension juste de l'organisation finalement de nos sociétés humaines. Après, on peut débattre de plein de choses. Par contre, je voudrais rebondir sur le fait de dire on en fait pas assez ou les écoles d'ingénieurs font pas assez. Et je suis pas là pour faire le porte-parole de l'ensemble des écoles d'ingénieurs, surtout qu'il y a une très grande variété. Et moi, je ne peux parler que finalement de ce que je connais au moins bien, l'école des mines de Paris et au moins son nouveau cycle ingénieur, puisque j'en suis à l'origine et j'ai porté le projet de développement du nouveau cycle ingénieur des mines de Paris en 2019. Je pense qu'il faut aussi voir qu'il faut saluer les éléments de changement positif.
Comme par exemple, des exemples concrets. Vous avez intégré assez tôt, justement, ces enjeux-là. Vous avez initié des nouveaux cours.
Nous, aujourd'hui, typiquement, les élèves qui rentrent en première année, ils ont ce qu'on appelle une unité d'enseignement qui s'appelle Terre et Société. Et pour la faire en très simple, c'est du tronc commun. Ça représente 130 heures de cours. Dedans, il y a trois axes. Très simple. Énergie et changement climatique. Réalisé par Jean-Marc Jancovici, qui est de longue date à l'école. Deuxième gros cours, questions sociopolitiques environnementales. Donc une approche de la sociologie.
Ouais, donc des sciences humaines, effectivement, pour avoir une approche transverse.
Et dans une logique où c'est pas nouveau ça pour nous. Je rappelle, on s'appuie sur une formation fondée sur la recherche. On a un centre de sociologie de l'innovation dans lequel d'ailleurs feu Bruno Latour, dont vous avez sûrement entendu parler, a œuvré pendant 25 ans. Et tout ça, on l'introduit après dans nos enseignements. Et le dernier point pour vous dire sur ces éléments de tronc commun, on leur fait faire un cours qui est lié à l'observation, donc à l'observation géologique. Il n'y a rien de plus similaire que des cailloux, quand vous regardez les cailloux par terre, et pourtant il y a tellement de différences, où on leur fait faire un élément qui s'appelle géosciences et anthropocène, pour leur faire comprendre quel est le temps long et les différences entre les échelles spatiales et temporelles. Parce qu'on doit s'inscrire là-dedans aussi. On doit former des esprits à cela. Parce que si vous voulez adresser cette complexité, il faut quand même avoir ces mécanismes en tête.
Mais justement, voilà. Là, est-ce que ça ne favorise pas quelque part la dissonance quand on est étudiant, qu'on a un cours sur l'anthropocène et que derrière, on va avoir un autre cours qui nous rend employables, opérationnels, pour justement participer à l'innovation dans un modèle quand même capitaliste, qui est le modèle dominant. Est-ce que les bases que j'ai de l'anthropocène peuvent rentrer en contradiction? On parle même de capitalocène.
Mais que la vie et les organisations humaines soient pleines de contradictions? Oui. Et encore une fois, c'est comment on s'inscrit par rapport à cela et comment on œuvre humblement à son échelle dans ces contradictions qu'on peut avoir.
Olivier Lefebvre, le fait qu'il y ait des intégrations justement d'enseignement de sciences sociales, ça participe à... ce sont des bons signaux qui sont envoyés pour que ces ingénieurs auxquels vous vous adressez, puisque vous leur envoyez une lettre, ça participe à quelque chose de positif selon vous?
Bon, c'est évidemment positif. Et d'ailleurs, ça constitue aujourd'hui une grande partie de mon travail. J'occupe une grande partie de mon temps à transformer les enseignements, à créer des enseignements de type sensibilisation aux enjeux environnementaux, transition écologique et sociale, etc. Donc évidemment, je peux que aller dans ce sens. Sur la question de est-ce que ça suffit ou est-ce que ça pourrait ne pas avoir l'effet pervers de peut nourrir la dissonance cognitive des étudiants, comme vous le disiez, c'est-à-dire que on leur fait un cours soit sur l'anthropocène ou l'urgence écologique et la nécessité, par exemple, de rediriger radicalement nos sociétés dans d'autres directions, de changer beaucoup de choses, vraiment de changer de paradigme. Et le cours d'après, pour citer un exemple à Toulouse, ça va être de l'électronique embarquée pour l'aéronautique.
Oui, voilà. Voilà, c'est ça dont je
voilà, effectivement. Ça peut effectivement poser problème. Moi, je sens un autre problème chez les étudiants aujourd'hui, qui est une forme de lassitude. C'est, pour reprendre l'expression, on serait dans la société du vert clair. Tout est vert aujourd'hui. Absolument tout est vert, les bouteilles que vous nous proposez, et je vous en félicite, les publicités, les grandes entreprises, etc. Tout est vert. Et pourtant, visiblement, nos sociétés ne bifurquent pas. Et donc, moi, je sens une lassitude par rapport à des discours éventuellement qu'ils soient alarmistes ou plutôt rassurants et en disant on va réussir à transformer, à se bifurquer, etc. et tout, et une difficulté à vraiment prendre les choses au sérieux et une possibilité de repli en disant bon ben en fait ces questions-là visiblement la société ne les prend pas à bras le corps. Si la société ne bifurque pas, on voit pas pourquoi nous on change.
Donc un repli individuel. Exactement. Ça, c'est dans la vision un peu négative, ou un repli associatif, en se disant bah, finalement, si la société ne prend pas ces sujets à bras le corps, moi, tout seul ou avec les autres, je vais tenter à ma manière d'essayer.
Il me semble que c'est le signal qu'envoient les ingénieurs bifurqueurs, déserteurs, c'est de dire la société ne bifurquant pas, eh ben, nous allons bifurquer et inventer des alternatives à côté.
C'est ce que vous faites aussi, Lou Méchin, avec le réveil écologique.
Oui, exactement.
vous bifurquez à votre niveau.
Exactement. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs types de bifurcation. On va avoir la bifurcation des élèves d'AgroParisTech qui vont décider de réinventer complètement leur vie, si je puis dire. Et il y a des bifurcations qui sont certes moindres, mais qui ont aussi de l'effet. Donc, au collectif Point Arrivée Écologique, il a été fondé en 2018 après avoir rédigé en fait le manifeste étudiant pour un rêve écologique qui a été donc rédigé par des étudiants et des étudiantes de grandes écoles, qui a été signé par plus de 30 000 personnes. Et donc c'est après le succès de ce manifeste qu'on a décidé de créer le collectif, dans lequel on travaille sur deux pans principaux qui sont les emplois d'une part et les formations d'enseignement supérieur d'autre part, qui sont complémentaires l'un et l'autre. Puisque effectivement, on voit d'une part, quand on parle de la société qui ne bifurque pas, c'est aussi les emplois, à quoi est-ce qu'on emploie notre force de travail, les entreprises notamment, les services publics également, et derrière, à quoi est-ce que les jeunes qui rentrent dans la vie active sont formés dans pendant leurs études.
Alors on parle de bifurcation, nous allons tout de suite bifurquer vers l'historien François Zerrige.
La technique devient une sorte de boîte noire. C'est-à-dire qu'elle est neutre, c'est juste une question d'usage social, et donc on ne pense plus à la technique. Donc on la laisse à des experts, à des techniciens, on l'exclut du débat collectif. Or justement, tout l'enjeu, c'est de voir que ce qu'on appelle technique, en fait, c'est aussi des choix. C'est des choix qui sont faits à des moments historiques par des groupes d'intérêt, par des lobbies, par des acteurs situés eux-mêmes socialement. Donc une technique, elle s'impose pas miraculeusement par ses vertus internes. Elle est portée par des imaginaires, par des groupes sociaux, par des projets divers et variés.
L'historien donc François Zerrige qui nous dit que la technique n'est pas neutre. Est-ce qu'elle est neutre pour vous, Frédéric Fontaine ?
Ah non, elle n'est pas neutre. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle la neutralité. Encore une fois, tout est une question de la manière dont on objective les choses. Et donc, ça dépend évidemment de l'usage de la technique. Forcément. Est-ce que ça structure nos sociétés ? Bien évidemment. Vous le voyez bien. Je pense que il y a 30 ans, on faisait pas de la radio comme vous le faites maintenant. Et il y a plein de techniques tout autour de nous. Et nos vies sont remplies de différentes techniques. Donc la question est de savoir à quoi ça sert. Que l'historien qui faisait référence dise, effectivement, ce sont des choses qui ont surgi avec multitude de facteurs qui ont conduit à cela et leur émergence dans les sociétés, c'est bien vrai. Et la question de savoir si, effectivement, on est obligé d'avoir la énième haute définition pour regarder des vidéos dans les toilettes, on peut se poser la question. On peut se poser la question, bien évidemment. Et que on soit, et à notre avis, à l'École des Mines de Paris, ça paraît important, que l'on remette ça au sein de la société et qu'on adresse ces questions-là d'un point de vue sociétal, ça nous paraît évident. Après, une fois qu'on a posé ce constat-là, il faut le faire pour de vrai. Nous, notre devise, c'est théorie et pratique. Et globalement, il y a la théorie, et puis il y a la pratique pour arriver à le faire.
Et c'est quoi le faire pour de vrai, justement ?
Le faire pour de vrai, c'est arriver quand même à amener beaucoup de gens dans cette démarche-là. Puisque ce qu'on disait dans le constat tout à l'heure, c'est de dire, il y a une certaine lassitude, la société s'empare pas des choses, on voit qu'il y a le feu, et puis on fait pas grand-chose finalement pour l'éteindre, le feu. C'est ça la réalité. Et on n'embarque pas les gens et les habitudes de consommation sans jeter l'anathème, sans jeter la pierre. Évidemment, on voit bien qu'elles évoluent pas forcément. On voit bien que le flux de vidéos, il augmente. Et on voit bien que ça a des conséquences. Par exemple, si je ne prends que cet exemple-là.
Mais justement, la lassitude dont parlait Olivier tout à l'heure, est-ce que vous la ressentez, vous, chez vos étudiants ?
Alors, non, moi je la ressens pas. Moi je ressens, en tous les cas, moi je ressens beaucoup de vie. Je trouve qu'ils sont très vivifiants. Enfin, je pense qu'il faut aussi se satisfaire d'avoir des gens qui, à 18-20 ans, arrivent, remettent en question des choses, posent des bonnes questions, bougent les choses. Enfin, il faut aussi saluer l'évolution humaine d'avoir, à 18-19 ans, des gens qui se posent ces questions-là. Après, qu'on ait toutes ces réponses, qu'on y arrive, que ça soit compliqué, difficile, que le chemin soit laborieux et de labeur, je le conçois. Et on le regarde qu'à l'échelle, je dirais là, un peu nationale, franco-française. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie sur le continent africain, au Maghreb, à œuvrer, à développer de la formation en ingénierie. Et le prisme, la lecture est forcément différente. Donc, il faut aussi entendre tout ça. Il faut aussi se projeter à l'échelle de la planète sur laquelle il y a le feu. Et c'est bien cette échelle-là, la question d'échelle.
Une réaction, Olivier Lefebvre ?
Oui, sur la question du choix. Et je pense qu'on peut faire un parallèle entre l'idée que la technique serait neutre et que donc l'essentiel de ses effets serait déterminé par les usages des personnes. Et voilà, les gens, ils auraient le choix de faire des bons usages et des mauvais usages, qui est l'idéologie de la neutralité de la technique.
La fameuse analogie du marteau, hein, voilà. On peut soit planter un clou, soit casser la tête de son voisin.
Voilà, et bon, et c'est vrai que c'est intuitivement, ça a l'air de fonctionner comme ça, mais avec les technologies modernes, ça ne marche pas comme ça. Elles ont des effets structurants dans nos sociétés et les individus sont pris par des mécanismes plus systémiques et n'ont plus vraiment le choix. C'est bien le problème. Et je pense qu'on peut faire un parallèle avec est-ce que les ingénieurs qui sortent d'école, ils ont le choix ou pas des métiers qu'ils veulent faire ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils n'ont pas vraiment le choix non plus. Ce fameux marché du travail, il est organisé selon certaines logiques, ça suit certaines trajectoires. Et donc, ils se retrouvent à prendre les jobs qu'il y a. Et si on va plus loin en se disant, quand même, dans les écoles, il faudrait qu'on fasse un effort, qu'on mette un maximum d'enseignement sur les enjeux environnementaux, qu'on change complètement l'école, ça va pas suffire. De toute façon, l'école n'est pas un système isolé de la société et à la fin, une école, il faut bien qu'elle forme les étudiants au marché de l'emploi tel qu'il est. Elle peut pas faire que des bifurqueurs. Sinon, elle va rapidement fermer la clé sous la porte. Mais voilà, quand même, prendre conscience de ces contraintes systémiques, de ces mécanismes, de ces organisations qui prennent les individus au travers des systèmes techniques, qui prennent les institutions, les écoles d'ingénieurs et le reste de l'enseignement, dans des trajectoires et qui font que on n'a pas le plein choix de ce que l'on pourrait faire. Hein. On hérite d'un système qui a été développé petit à petit. La société, prenons l'exemple du développement de l'automobile, c'est l'exemple excellent de comprendre que on n'a plus vraiment le choix, que ça modifie nos choix, parce que la société, elle s'est adaptée, elle a laissé la place à l'automobile, elle a fait plein
dans
de
son
routes,
espace
etc.
urbain. Ça changeait les villes.
Voilà, on a créé des banlieues résidentielles. Et une fois qu'on a mis les gens là-bas, mais les gens, ils en sont dépendants de la voiture. Donc, on passe d'une adaptation à une dépendance. Et les individus, ils n'ont plus tout le choix comme ils avaient auparavant. Et ça, on le retrouve dans tous les systèmes techniques un peu de grande ampleur et qui fonctionnent en réseau. Donc, ça détermine un peu les trajectoires qui seraient accessibles aujourd'hui.
Alors, pour résumer, Olivier Lefebvre aime les ingénieurs qui bifurquent. Lou Méchin aime ses amis du réveil écologique. Frédéric Fontaine aime ses étudiants. Et Anne Sylvestre aime les gens qui doutent.
France Culture. Le meilleur des mondes. François Saltiel.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie merci, qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Que c'est beau dans Le Meilleur des Mondes d'entendre Anne Sylvestre avec J'aime les gens qui doutent. Elle aussi, elle doute, mais elle va nous offrir son journal avec conviction. Le journal d'un monde meilleur par Juliette Devaux.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Devaux.
Et on commence ce journal avec une nouvelle qui nous vient du fin fond des océans. Une biologiste américaine du nom de Michelle Fournet aurait réussi à décoder en partie le langage des baleines grâce à l'intelligence artificielle. En écoutant et en comparant des milliers d'enregistrements de ces géants marins, la chercheuse a identifié un son récurrent prononcé « whup » qui servirait aux baleines pour signifier leur présence à leurs congénères. Pour décoder le langage des cétacés, Michelle Fournet s'est rapprochée d'une organisation spécialisée dans le décodage du langage animalier, la Earth Species, basée en Californie. Depuis 6 ans, cette organisation à but non lucratif récolte de la data dans le monde animal pour entraîner des logiciels d'apprentissage automatique à reconnaître des sons récurrents et à tenter d'en comprendre la signification. Au-delà des perspectives réjouissantes de sous-titrage de nos documentaires animaliers, ces avancées pourraient permettre de protéger certaines espèces menacées en identifiant leurs signaux de détresse ou en mesurant plus finement l'impact des activités humaines sur leur mode de vie. Comme quoi, l'intelligence artificielle pourrait paradoxalement nous aider à nous reconnecter à notre humanité.
Voilà, je dirais wop. Je le fais bien, Juliette, ou...
Bien, très bien.
Ouais, bon. Alors ça, c'était pour rigoler, mais maintenant une actualité moins réjouissante du côté des réseaux sociaux.
Alors que la chanteuse Oshi a annoncé porter plainte une seconde fois contre ses cyberharceleurs et a souligné les lenteurs de la justice en la matière, Emmanuel Macron a rappelé lors d'une interview cette semaine l'arrivée très prochaine au Sénat d'un projet de loi contenant des mesures pour lutter contre le cyberharcèlement. Le 9 octobre prochain, les sénateurs se pencheront ainsi sur ce texte qui prévoit de renforcer les sanctions déjà prévues contre les cyberharceleurs, en prévoyant notamment une peine de bannissement de 6 mois des réseaux sociaux, une mesure qui implique la collaboration des plateformes tenues d'accéder aux demandes de la justice sous peine de devoir payer une amende de 75 000 euros. Si différentes questions restent en suspens, notamment quant à la faisabilité technique du bannissement, cette entrée dans l'hémicycle du cyberharcèlement marque la reconnaissance des nombreuses victimes de ce fléau et annonce peut-être la fin de l'ère de l'impunité.
La fin de l'ère de l'impunité, on le souhaite et on achève ce journal avec la reconduction d'une formation inédite à Centrale Nantes cette année.
Et oui, en cette rentrée 2023, les étudiants de l'école d'ingénieurs Centrale Nantes pourront s'inscrire à l'option Projet Ingénierie des Low-Tech, lancée en 2022 et reconduite cette année, forte de son succès. Derrière ce terme de Low-Tech se cache une démarche scientifique et technique alternative qui s'attache à concevoir des outils répondant à 3 critères, l'utilité sociale, la durabilité et enfin l'accessibilité au plus grand nombre. Et si ces options tendent à se multiplier dans les écoles d'ingénieurs, c'est notamment grâce à une communauté d'enseignants-chercheurs très actifs sur le sujet qui se retrouvent et échangent depuis quelques années sur le forum Low-Tech Recherche et Enseignement, un espace numérique dédié à la structuration de cette nouvelle offre qui semble particulièrement répondre aux nouvelles aspirations des futurs ingénieurs. Encore une preuve qu'Internet bien utilisé pourrait nous mener tout droit vers un monde meilleur.
Les journaux, le journal et les nouvelles d'un monde meilleur, c'est un podcast à retrouver sur le site Radio France et notre application signée donc Juliette Devaux qui reviendra chaque semaine pour nous livrer ses bonnes nouvelles. Ce soir, nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Lefebvre, ancien ingénieur en robotique, auteur du livre « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». C'est paru il y a quelques mois aux éditions L'Échappée. Nous sommes avec Lou Méchin, étudiante à Polytechnique et coordinatrice du collectif Pour un réveil écologique, et avec Frédéric Fontaine qui est directeur de l'enseignement à l'école des mines de Paris PSL. On questionne ces ingénieurs qui doutent, on essaye de mieux comprendre cette profession, ce métier hétérogène. Frédéric Fontaine, vous pensez-vous que la solution d'un monde meilleur pourrait venir des futurs étudiants qui parviendraient à changer finalement les choses, voire le paradigme de l'intérieur?
Je pense que déjà on parle souvent de transition, et quand vous regardez les choses, la transition normalement c'est de partir d'un point A avec le périmètre qu'on y définit, puis on va vers quelque chose qui s'appelle B, puis on essaie de le définir. Or, la question, là, c'est quoi, et on entend hein, tous les propos qui ont été menés, qui sont justes, que l'automobile est structuré finalement le territoire en grande partie et avec des aspirations sociales, etc. Oui, c'est une évidence. La question, c'est vers quoi on veut atterrir.
Bruno Latour.
Possiblement, hein. J'ai connu Bruno il y a longtemps quand je suis entré à l'école. J'étais jeune enseignant chercheur et effectivement, c'était très très vivifiant d'entendre ce genre de propos et comment on inscrit cela. Donc déjà, pour y arriver, il faut être bien conscient quand même qu'il faut amener plein de gens.
Oui, mais pour
changer. Donc, il faut quand même qu'il y ait, et je pense qu'il en faut pour tout le monde, qu'il y ait des aiguillons, qu'il y ait des gens qui vont être des catalyseurs, qui vont avoir envie, qui vont entreprendre. Il faut ça. Il y a des gens qui ne prendront pas le premier train, ni le second train, ni le troisième. Ils le prendront peut-être au bout du quatrième. C'est ça qu'on doit faire collectivement.
Donc vous nous dites, par exemple, que les étudiants qui vont donc sortir de chez vous, qui auront eu donc des choix éclairés, qui auront eu des cours de sciences sociales, qui auront eu une ouverture justement sur les enjeux de ce monde en mutation, lorsqu'ils vont intégrer finalement le système, parce qu'on est quand même sur, je ne sais pas d'ailleurs majoritairement qui emploie vos étudiants, mais j'imagine que ce sont des grandes entreprises.
Bah, en fait, non, il y a une grande tendance. Hein. On est passé au début des années 2010, par exemple, à 70% ou dans les années 2000 dans des grands groupes. Aujourd'hui, on est à 30%.
Bon, donc c'est 30% qui vont arriver dans des grands groupes ou on va dire les autres dans des moyens groupes. Mm-hmm. C'est à eux d'arriver de l'intérieur à tenter de changer les organisations en faisant davantage prendre conscience sur les enjeux écologiques.
Oui, et d'inspirer et de montrer que c'est possible. Et c'est possible à des endroits. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un secteur qui est sale,
la pétrochimie.
Non, la sidérurgie. Allez, l'acier. Un monde sans acier. Imaginez un monde sans acier. Juste comme ça, pour voir. Et vous dire, tiens, comment on fait? Bah, si aujourd'hui vous regardez et que finalement on arrive à faire passer de l'acier formé de 25% de recyclage à 75% d'acier recyclé. Bien évidemment, en pensant les usages qu'on en fera derrière dans la société. Bah, à un moment, il faut aussi se poser ces questions-là. Me semble-t-il, et il faut les éclairer d'un point de vue sociétal. Il y a aussi ces choix-là qu'il faut faire. Et là, je vais vraiment dans la sidérurgie, l'industrie lourde, etc. Volontairement, parce que c'est compliqué. Hein, c'est compliqué de transformer du fer en quelque chose qui peut être monté sur des objets, certains inutiles, d'autres utiles. C'est compliqué de faire ça.
Changer les choses de l'intérieur, Lou Méchin, vous y croyez en tant que futur ingénieur?
Je pense qu'il y a vraiment cette dualité, cette complémentarité en fait entre les connaissances d'une part, les compétences de l'autre. Les connaissances, c'est des moyens théoriques qu'on va pouvoir acquérir pendant une formation, notamment. Sauf que ces connaissances seules, elles vont pas permettre de changer les choses. Elles vont permettre de prendre conscience, d'être sensibilisé sur l'état du monde. Donc, ça va pas suffire d'appliquer. Des cours sur les enjeux socio-écologiques, même si ça reste évidemment nécessaire dans les formations d'ingénieurs notamment. Mais la question des compétences, la question à quel métier est-ce qu'on a envie de former, elle est très importante. Dans le collectif, on a développé une plateforme qui s'appelle Pour l'emploi de demain, dans laquelle on a identifié 16 chantiers qui vont permettre la transition socio-écologique. Et donc l'idée de ce projet, c'est d'identifier en fait les différentes offres d'emploi qui correspondent à ces compétences spécifiques, des nouvelles compétences qu'il va falloir développer ou alors des compétences dont il va falloir développer la main-d'œuvre pour la transition socio-écologique. Aujourd'hui, moi je vais plutôt parler de la pétrochimie. Aujourd'hui, on a des entreprises comme Total qui vont avoir de plus en plus de mal, qui continuent de réussir à recruter. Même si au fur et à mesure de la prise de conscience, ça va être de plus en plus compliqué pour eux, mais qui continuent de pouvoir recruter aujourd'hui, mais des personnes qui vont être de moins en moins compétentes dans la transition socio-écologique, et ils vont perdre de plus en plus de crédibilité quant à leur capacité d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on parle de Total qui publie un rapport dans lequel il prévoit 5 à 10% d'évolution, d'augmentation de production de pétrole d'ici à 2030.
Mais ça, c'est intéressant justement le cas de Total. C'est quoi votre positionnement là-dessus? C'est de se dire, justement, allons-y, allons chez Total, parce que cette entreprise a besoin d'avoir ce réveil écologique, ou à l'inverse, n'allons pas chez Total, ils auront donc, parce que c'est injouable éthiquement d'y aller.
C'est injouable éthiquement d'y aller d'une part, et en plus c'est pas en allant commencer sa carrière chez Total qu'on va pouvoir modifier une entreprise du CAC 40 du jour au lendemain. Aujourd'hui, il faut faire prendre conscience que l'industrie du pétrole, l'industrie du gaz, ça doit s'arrêter. L'Agence internationale de l'énergie est très claire sur le fait qu'il ne faut plus développer de nouveaux puits de pétrole. Et pourtant, c'est ce qui continue de se faire. Donc, il y a des initiatives étudiantes avec des projets Stop Ecop, notamment, dont on a entendu parler dans les médias, qui permettent de réveiller les consciences. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin.
C'est pour ça aussi que vous appelez la formation des directeurs, des directrices.
Exactement.
Voilà, parce que comme vous le dites, quand on arrive en début de carrière, c'est pas là où on a le pouvoir, c'est pas là où on a la capacité de...
Exactement, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. En fait, on essaye d'accompagner la transition et la transformation des établissements d'enseignement supérieur. Ça passe par trois grandes parties. La gouvernance des établissements, donc on appelle à la formation des directeurs et des directrices d'établissements, parce que un directeur qui n'est pas formé aux enjeux socio-écologiques sera moins apte à accompagner la transition de son établissement. On appelle également à l'évolution des formations. Donc, d'une part, intégrer des cours au tronc commun, comme ce qui est fait notamment aux mines en première année, mais également de transformer l'intégralité de la maquette pédagogique, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir des cours sur les enjeux socio-écologiques, quand derrière, on va avoir des cours de comptabilité sur l'optimisation fiscale, forcément...
Ils existent ces cours-là ?
Oui, tout à fait.
Vous faites des cours sur l'optimisation fiscale ?
Non, sur l'optimisation fiscale, à ma connaissance, non. On n'a absolument pas de cours sur l'optimisation fiscale. Par contre, on a un cours sur les entreprises à mission.
Et si la mission, c'est l'optimisation fiscale, c'est...
Et vous voyez, il fut un temps où à l'école des mines de Paris, mais comme dans beaucoup d'établissements, il y avait des options finances quantitatives, et c'est quelque chose qui a disparu du cursus. Donc,
vous êtes plus dubitatif, le méchant.
Oui, je suis plus dubitative. Le cursus des mines, je le connais moins bien que celui de l'école polytechnique. J'ai suivi que la dernière année, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'on continue d'avoir des représentants de la stratégie de Total Energy ou alors des professeurs qui vont continuer de nous expliquer comment les grands groupes font pour faire de l'optimisation fiscale. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu avoir. Et même dans des cours de gouvernance, on passe peu de temps sur les entreprises à mission.
Voilà ce qui peut nourrir donc ce sentiment de dissonance dont parle si bien Olivier Lefebvre dans son livre. Un petit rebond, Olivier, par rapport à la question des insiders, pour prendre du bon français, changer les choses de l'intérieur, vous y croyez pas trop ?
Alors, de l'intérieur de quoi ?
À l'intérieur d'une entreprise.
Entreprise ou d'une école, d'une institution publique, je pense que c'est quand même pas exactement la même chose. Moi, je me suis attaché à regarder les discours énoncés et les petites histoires que se racontaient les personnes qui étaient dans des dynamiques de changement de l'intérieur, en disant « moi, je reste à ma place, je suis à l'intérieur, parce que je pense que c'est là que je suis le plus efficace ». Et effectivement, en les écoutant parler, il m'a semblé que ces personnes étaient globalement de mauvaise foi, et que c'était des narrations qui étaient inventées pour légitimer, pour résoudre leur dissonance cognitive, mais que le maximum d'efficacité, elle savait pertinemment qu'elle n'allait pas l'avoir au sein de leur entreprise. Mais c'est tout à fait confortable et extrêmement socialement bien accepté de dire oui, mais c'est quand même le fameux truc de on détourne pas un avion si on n'est pas à l'intérieur. Voilà, il y a plein de métaphores comme ça. Et je pense que c'est extrêmement dommage parce qu'on a là des personnes qui ont des grandes capacités à la fois intellectuelles, d'organisation, qui auraient les épaules pour porter des projets autres, les fameuses alternatives. Et en fait, là, on tombe dans des questions de sciences politiques. C'est quoi les bonnes méthodes de transformation sociale ? Est-ce que c'est depuis l'intérieur des institutions dont on juge qu'elles sont défaillantes, dont on juge depuis des années qu'elles n'arrivent pas à bifurquer ? En plus, en système néolibéral, on a quand même l'État qui, grosso modo, demande aux entreprises « de quoi avez-vous besoin ?» On est quand même dans cette dynamique-là depuis une quarantaine d'années. Donc là, se dire changer les choses de l'intérieur, c'est loin d'être évident. C'est sans doute pas impossible, mais il faut être très très fin d'essayer de composer avec ce système-là pour voir, de lui donner un petit peu des choses qui l'avantagent, mais en même temps l'embarquer dans une autre trajectoire. Et il me semble qu'on délaisse tout un pan de stratégie de transformation sociale qui est le développement des alternatives. Nourrir des projets, donc typiquement la formation d'ingénieurs low-tech à Centrale Nantes, Où sont les ingénieurs de la décroissance? Où sont les ingénieurs de la sobriété, les ingénieurs du démantèlement, du système technique non soutenable qu'on a et tout? Il n'y a rien qui forme à ça. Et donc, laisser la place, que les directions des études puissent laisser la place à ce genre d'alternative, en disant oui, effectivement, ça ne correspond pas au marché du travail aujourd'hui, etc. Mais ça me semble être presque de la responsabilité de nos institutions, parce qu'il faut faire le constat d'échec. Les institutions, elles n'ont pas réussi à bifurquer. La société, elle n'a pas bifurqué. Donc, laisser la place à autre chose, à d'autres manières de voir le monde, que ça puisse exister, vivre et que ça puisse inspirer petit à petit effectivement des transitions plus radicales.
Ces formations, que ces ingénieurs des low-tech que vous venez d'appeler de vos, il y a quand même des initiatives, c'est un chemin qui est en cours.
C'est un chemin en cours, moi je suis porteur d'une de ces formations qui s'appelle la Bifurque, qui va démarrer en mars prochain et qui est typiquement pour essayer de prendre des gens qui souhaitent bifurquer de leur façon de faire de l'ingénierie aujourd'hui, mais qui ne souhaitent pas pour autant lâcher la technique. Qui disent pas non, l'ingénierie n'a plus de place dans ce monde-là, mais comment est-ce qu'on pourrait la faire différemment selon d'autres principes et aussi selon d'autres logiques économiques.
Alors, on a parlé tout à l'heure des étudiants d'AgroParisTech, ils ont bifurqué, mais que sont-ils devenus depuis? Réponse avec ce reportage de France Inter.
Lola se destinait à devenir ingénieure agronome et à travailler dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'agriculture, comme plus de la moitié des étudiants de sa filière. Elle a changé de voie et a décidé de se former à des techniques manuelles.
J'ai appris à faire de la taille de pierre, j'ai fait du maraîchage, j'ai fait de la maçonnerie, construit des ateliers de bricolage.
La jeune fille de 25 ans travaille à mi-temps dans une revue écologiste indépendante, Silence, et fait partie du mouvement Extinction Rébellion. C'est d'ailleurs sur un terrain de lutte contre des retenues d'eau à Sainte-Soline qu'elle a accepté de parler et où elle a retrouvé Gwen, qui elle aussi faisait partie des 8 étudiants montés à la tribune en mai dernier. Gwen a 24 ans, elle est installée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
J'y fais de l'agriculture vivrière, on s'occupe d'un petit troupeau de vaches laitières. On vend des fromages à prix libre sur la ZAD et je m'investis là-dedans. On n'est pas soumis à une pression économique comme des exploitations classiques, mais du coup ça nous laisse plus de place à de l'expérimentation et à trouver des façons de faire autrement l'agriculture. Pour moi, ma vie, elle a beaucoup plus de sens.
On ne veut pas juste intégrer une contrainte environnementale ou climatique dans des métiers qui resteraient les mêmes. On veut envisager un autre rapport au monde.
Reportage diffusé le 16 novembre 2022, Lou Méchin, on entend justement ceux qui ont bifurqué, qui sont beaucoup lancés dans l'association. La puissance, le pouvoir de l'associatif, c'est peut-être une des solutions aussi.
Oui, bien sûr. Ce discours des étudiants d'AgroParisTech, il est important parce que il propose une alternative. Il montre que les jeunes rejettent le système socio-économique actuel. Avec pour un réveil écologique, je pense qu'on a une approche qui est complémentaire et probablement pas opposable, dans le sens où, effectivement, une fois qu'on a fait le constat avec ces étudiants que les jeunes n'acceptaient plus le système socio-économique, constat qui a été d'ailleurs conforté par un sondage qu'on a effectué avec l'Institut Harris Interactive en 2022, qui montrait que 65% des jeunes entre 18 et 30 ans de toute formation et de toute classe sociale confondue étaient prêts à prolonger leurs études ou à changer d'études pour être formés aux enjeux environnementaux. Ça montre qu'une alternative est possible et que mobiliser le collectif, effectivement, ça peut avoir un impact. Et on y croit pour un éveil écologique, en tout cas.
Voilà. Après, quand on est dans l'associatif, encore faut-il arriver à en vivre. Et on sait très bien que c'est là où, effectivement, le bas blesse. Lui, il n'a pas fait des études d'ingénieur, mais de journaliste. Il s'appelle Marcus de Pombénard. Bonsoir, Marcus.
Bonsoir, François.
Il va nous livrer sa chronique avec un petit pas de côté par rapport à notre thématique du soir, puisque vous allez nous parler du métier d'artiste un peu chamboulé face à l'intelligence artificielle.
Oui, je voulais parler d'une autre métamorphose, mais avant, on commence en librairie, parce que début 2023, un excellent recueil de SF sortait en poche, La fabrique des lendemains de Rick Larson. Dans ses nouvelles, l'auteur explore les futurs possibles avec le changement climatique, le virtuel ou encore la place de l'intelligence artificielle. Mais il y a un twist. Quand cette édition en poche sort, sa couverture est illustrée avec une image générée par une IA, Midjourney. Alors à l'époque, je contacte le livre de poche pour les interroger sur ce choix. La directrice artistique, Bénédicte Marchand, m'a fourni une réponse intéressante. Ce choix s'est fait à leur insu, car à l'époque, la banque d'images utilisée ne précisait pas quand une image était générée ou non par une IA. Elle m'explique aussi que cette situation l'a poussée à prendre une décision. Le livre de poche bannit les IA pour les couvertures.
Alors comment expliquer ce choix ?
Eh bien, pour Bénédicte Marchand, c'est très clair. Politiquement, illustrer un livre avec une IA n'est pas un bon choix éthique pour préserver les artistes et pour les problématiques de droits d'auteur. D'ailleurs, depuis, le livre de poche a changé la couverture de ce recueil avec une image créée par un illustrateur humain.
Alors, les IA sont-elles totalement incompatibles avec ce métier, Marcus ?
Eh bien, ça dépend. Certains artistes essayent aussi de composer avec l'IA pour garder le geste humain tout en utilisant cet outil. Je voudrais vous parler du court-métrage d'Anna Apter. Cette réalisatrice a gagné le prix Nikon 2023 de la critique et de la mise en scène pour son court-métrage Imagine, où elle utilise Midjourney. J'ai bien dit utilise. Les images sont générées par IA, mais elle en a travaillé chaque aspect avant et après en utilisant aussi d'autres outils comme Photoshop. Elle nous en parlait dans une vidéo Numérama.
Pour bien comprendre la part de l'IA dans mon processus, c'est pas, j'ai pas appuyé sur un bouton et ça m'a sorti tout ça. J'ai d'abord écrit un texte et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir comme image ? J'ai réfléchi comme j'aurais fait avec un storyboard, sauf que j'ai demandé à une IA, j'ai décrit à Midjourney les images précises que j'aurais dessinées en storyboard et que j'aurais données à une équipe si j'en avais une. J'en ai généré beaucoup avant d'avoir les images qui me plaisaient. Et une fois que je les avais, je les ai quasiment toutes retouchées sur Photoshop. J'ai arrangé certaines choses. Parfois, il y avait des choses que j'avais qui me plaisaient pas dans le fond, que l'IA avait généré, donc je les enlevais.
Sans compter qu'ensuite, Anna Apter a animé ses images avec plusieurs logiciels très connus et écrit un très joli texte elle-même. En clair, pour ce court-métrage qui utilise une IA, ce sont malgré tout des heures et des heures de travail humain minutieux pour cette réalisatrice. Alors, l'IA ne remplacera jamais les artistes et surtout, on ne doit jamais laisser cette issue ne serait-ce que se profiler. Mais peut-être que certains artistes vont vouloir et même réussir à intégrer cet outil à leur pratique professionnelle.
Merci beaucoup Marcus, vous avez intégré vous l'IA à votre chronique comme un objet d'étude. On retrouve également votre chronique sur le site de Radio France, le site du meilleur des mondes. Frédéric Fontaine, j'imagine que l'intelligence artificielle, les agents conversationnels sont depuis un moment déjà, entrer dans vos cours comme objet d'analyse. Est-ce que, justement, là, puisqu'on a parlé d'écologie dans cette émission, est-ce que le coût de fonctionnement, on sait très bien que la puissance de calcul nécessaire, l'énergie qu'il faut pour faire fonctionner ces machines est abordée, détaillée, est-ce que ce sont des informations qui sont également transmises, loin de toujours cette magie de la dernière technologie en date à laquelle on participe un peu tous, parce qu'on est tous, d'une certaine manière, un peu fascinés par la technologie?
Oui. Alors, bien évidemment, alors même si je dirais, ça dépend toujours des questions de périmètre, mais plus largement que l'intelligence artificielle, ce qu'on dénomme le numérique, c'est un peu le champ mort finalement de la transition énergétique, parce qu'on se dit bien que finalement on a tous besoin de ces outils-là. Ou alors on pourrait se poser la question de l'utilité des réseaux sociaux, et d'ailleurs si on les arrêtait, ça ferait bien évidemment un gain énergétique et une diminution des émissions de CO2 de façon importante, et je pense qu'on s'en sortirait pas mieux en termes de société. Une fois que j'ai dit ça, c'est toujours pareil, oui, les choses, il faut poser les constats sur les systèmes physiques actuels. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire dès la première année au niveau des élèves pour leur donner les clés de lecture là-dessus, pour leur expliquer ça, et puis après aussi, fort de ces grilles de lecture dans leur cheminement et leur choix aussi d'enseignement et d'éléments, de savoir questionner les enseignants par rapport à ces choses, à ces dimensions-là. Et dire, que se passe-t-il par rapport à ça?
On veut diminuer. Dire que c'est aux étudiants de questionner les enseignants, ou ça serait pas plutôt aux enseignants de livrer doivent,
et les enseignants et de la même
de
manière.
De permettre aux étudiants de se poser des questions.
D'intégrer à se poser des questions. Et c'est bien ce que je disais sur la formation. Ce qui me paraît important, et c'est là où je divergeais sur la définition de l'ingénieur, en tous les cas, mais qui rejoint la vôtre, moi je fais toujours le parallèle suivant.
Celle en fait, de Lou,
toute la scolarité, la plupart du temps, on a dit aux gens, tiens, voilà un problème, il est écrit, pouf, trouve la solution. Et moi, ce que je dis aux futurs ingénieurs, c'est, tiens, voilà la page blanche, écris le problème, avant de trouver la solution. Mais écris le problème.
Alors justement, la solution, il l'a peut-être trouvée, Olivier Lefebvre, avec son livre « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». Finalement, ce livre, c'est un peu une réponse d'ingénieur, Olivier. Il y avait un problème, une dissonance cognitive, vous avez trouvé une solution, le livre.
On pourrait voir ça comme ça. Pour moi, ça a été plus l'occasion de creuser une question, hein, comme je le disais en introduction, c'est-à-dire d'essayer de répondre à la question pourquoi il n'y en a pas plus qui désertent malgré tout. Et c'est cette question-là que j'ai tenté d'élucider dans le livre. Et sans avoir vraiment de réponse très très claire, mais une multitude de facteurs qui permettent d'expliquer ça.
Voilà, une très belle cartographie donc à retrouver dans ce livre aux éditions L'Échappée. Je remercie à la préparation de cette émission Juliette Devaux, ainsi que notre nouvelle stagiaire Béatrice Grégoire à la réalisation ce soir, Perré Legras, à la technique Jean-Guilain Meige pour quasiment une de ses premières, et à la réalisation vidéo Flavien Andrisiak. Le meilleur des mondes s'est terminé pour cette semaine et j'aurai le plaisir de vous retrouver comme chaque matin à 8h52 dans la matinale de France Culture.